Bonsoir à toutes et tous et bienvenue sur Radio Galère au 88.4 FM. Vous écoutez l'émission de la Forêt des Possibles. Nous sommes le mercredi 18 juin et nous sommes en direct de 19h à 20h. Vous pourrez retrouver demain cette émission en rediffusion de 9h à 10h sur radiogalère.org et la semaine prochaine sur Spotify. Saison après saison, semaine après semaine, nous recevons à notre micro celles et ceux qui font les transitions écologiques et sociales, à Marseille et ses alentours. Issus de tous les secteurs et de tous les horizons, nos invités racontent leur parcours, leurs expériences ou encore leurs états d'âme. En découvrant leurs engagements et leurs projets, nous tissons les liens entre les initiatives du territoire. Seuls, ils seraient comme des arbres isolés. Ensemble, ils forment une grande forêt qui chaque jour s'enracine, pousse, donne du fruit et montre la voie d'une société résiliente, créative et solidaire. Chères auditrices, chers auditeurs, l'émission de La Forêt des Possibles est une grande invitation. Nous pensons que vous avez votre juste place à prendre, du moi au nous et du nous au tout, dans une société qui respecte les besoins humains et les ressources de la planète. À ce micro, nos invités témoignent qu'il est possible de bâtir collectivement le monde de demain. Je suis Mathieu Cheminal et aujourd'hui je suis accompagné de Félix en régie.
Bonsoir à tous.
Salut Félix. De Elissa en studio.
Bonsoir.
Bonsoir Elissa. Et nous recevons Céline Leblanc. Salut Céline.
Bonsoir.
Et toi Céline, tu es fondatrice de Mamie Boom, une entreprise qui réinvente la compagnie des seniors en s'appuyant sur la jeunesse et l'humanité des étudiants. Un véritable pont intergénérationnel qui redonne du sens, du lien et de la vitalité à nos aînés. Alors, avant de revenir sur ce merveilleux projet qu'est Mamie Boom, on va parler de ton parcours, de ton chemin d'engagement et explorer ensemble comment il contribue à transformer notre monde, du moi au nous et du nous au tout. Alors, Céline, avant de fonder Mamie Boom, tu travaillais dans le marketing pour une grande enseigne.
Tout à fait.
Et alors, cette grande enseigne, c'était KFC.
C'est ça.
Qu'est-ce qui t'a poussé à changer radicalement de vie?
Alors, il y a plusieurs choses. C'était l'année de mes 29 ans. Je me suis dit, l'année prochaine, je vais avoir 30 ans. Donc, 30 ans, c'est un cap. Et pour ça, j'avais besoin de plus de sens dans mon travail. Donc, il y avait à la fois l'approche de la trentaine, la quête de sens et une envie de donner vie à un projet de cœur qui était lié à ma grand-mère.
Et alors, ta grand-mère, tu m'en as parlé lorsqu'on a préparé l'émission. Il y a eu un moment marquant avec elle autour d'un baptême d'hélicoptère, je crois. Est-ce que tu peux nous raconter cette anecdote et ce que ça a déclenché en toi?
Oui, en fait, quand j'avais 20 ans, j'ai demandé à ma grand-mère, est-ce qu'elle avait encore des rêves? Et là, elle m'a répondu de faire un baptême en hélicoptère. Donc, je lui ai dit, mais mamie, c'est génial, il faut le faire, c'est super. Et en fait, sa réponse d'après m'a attristée parce qu'elle m'a dit « Oh non, c'est plus pour moi, je suis trop vieille pour ça, c'est plus de ma génération ». Et forcément, j'avais 20 ans, des rêves plein la tête, j'étais triste de me dire que ma grand-mère, elle voulait pas aller au bout de celui-ci et de réaliser que les personnes âgées, souvent, elles s'oublient en tant qu'individu à partir d'un certain âge. Elles sont plutôt tournées vers les autres dans l'attente d'une visite, d'un coup de fil, mais elles se disent pas qu'est-ce qu'elles, elles pourraient encore réaliser. Donc voilà, à 20 ans, je me suis dit, un jour, j'aiderai les personnes âgées à réaliser leurs rêves. Et ça s'est concrétisé 10 ans plus tard.
10 ans plus tard, grâce à Mamie Boom.
Pause, excusez-moi, est-ce que tu as fait ce baptême en hélicoptère avec ta grand-mère?
Et non, malheureusement, je suis assez triste de qu'elle ait pas pu le faire au final. Je pense que j'ai pas eu le courage d'insister avec mes 20 ans, mais maintenant, voilà, je suis plus... j'aurais aimé pouvoir le faire, en tout cas.
En tout cas, c'est très inspirant. Merci pour cette question. Je ne manquerai pas de la poser à ma grand-mère la prochaine fois que je la vois.
C'est ça. Et donc, l'idée initiale, comment pouvoir aider les personnes âgées à réaliser leurs rêves. Et après, je me suis dit, dans un premier temps, qu'il fallait les aider à sortir de la solitude, sortir de chez elles et pouvoir reconnecter avec la société. Et d'où est née Mamie Boom, qui est initiée par cette idée du rêve.
Réaliser leurs rêves et finalement trouver leur juste place dans la société, ce qui est aussi très, très en lien avec la forêt des possibles.
Tout à fait.
Alors, tu as lancé Mamie Boom en 2020, en pleine année de confinement, de Covid. Donc, 2 mois plus tard, le pays est confiné. Comment tu réagis déjà quand on lance une boîte, j'imagine que c'est pas la meilleure nouvelle. Et qu'est-ce qui se passe ?
Alors, en fait, c'est ça. Donc, de l'idée de rêve, 10 ans plus tard, donc à mes 30 ans, je me dis, c'est le moment de me lancer dans l'entrepreneuriat, de lui donner vie. Et donc, je me suis dit que les rêves, c'était du domaine du luxe. Donc, on va commencer par de la compagnie, du lien social. Donc, mettre en relation des personnes âgées avec des étudiants pour leur tenir compagnie. Sauf que, évidemment, confinement, ce n'était pas le moment de mettre en présentiel, en physique, en lien ces deux populations. Et en même temps, je voulais pas non plus attendre les bras croisés que ça se termine. Donc, je me suis inspirée des initiatives qui avaient pu avoir pour le personnel médical et j'ai lancé une chaîne de solidarité bénévole pour les personnes âgées. Donc, on offrait 2 services gratuits aux personnes âgées grâce à un réseau de bénévoles, du portage de courses pour leur éviter de sortir, prendre des, voilà, pour pas qu'elles prennent de risques, et des appels de convivialité pour maintenir le lien.
Et alors, cette chaîne de solidarité, elle réunit combien de personnes ?
Eh ben, de mars à juin 2020, il y a eu plus de 3000 bénévoles qui se sont inscrits. Donc, vraiment, ça a témoigné de l'élan de solidarité des Français pendant ce confinement. Et on a pu aider une centaine de personnes âgées grâce à ces bénévoles de tout âge. Pour le coup, c'était pas intergénérationnel et partout en France.
Peut-être question bête, je sais absolument pas comment ça se monte une chaîne de solidarité. Comment est-ce que t'as lancé ce mouvement-là? Comment est-ce que t'as fait parler de cette initiative?
Eh ben, c'est une très bonne question. En fait, j'ai commencé tout simplement par faire 2 Google Forms pour je veux aider ou j'ai besoin d'aide. Et bien sûr, ils étaient visibles sur mon site Mamie Boom. Mais Mamie Boom n'avait pas de visibilité. C'était tout le problème. Donc très vite, grâce aux réseaux sociaux, le relais, j'avais eu une centaine de bénévoles, mais aucune demande d'aide, donc ou 1 ou 2 quoi. Et donc j'ai écrit mon premier communiqué de presse et je l'ai envoyé aux Parisiens. Et vraiment, je suis tombée sur un super journaliste qui m'a fait une double page dans le Parisien. Et là, ça a été l'effet boule de neige où j'ai eu beaucoup de retombées médiatiques, télé, radio, presse, pour cette chaîne de solidarité. Et c'est génial parce que c'est grâce aux médias que j'ai pu faire connaître cette initiative et aider les personnes âgées qui avaient besoin d'aide.
Et comment tu gères ça à ce moment-là, de te retrouver au centre de l'attention médiatique finalement quelques mois après avoir lancé un projet? Enfin, c'est quand même assez rare, assez surprenant. Comment tu le gères d'être au centre de l'attention et est-ce que tu te sens légitime à ce moment-là? Comment ça se passe?
Bah, tu fais bien de poser la question parce qu'en réalité, c'était pas facile. Étonnamment, je pense que j'avais un peu le syndrome de l'imposteur et j'avais du mal à accepter toutes ces retombées. Tous mes amis me disaient mais c'est génial, on voit Mamie Boom de partout, et moi je disais oui, mais enfin c'est je sais pas, j'arrivais pas à reconnaître que oui, c'était génial ce que je faisais. Et c'était un peu le début parce que c'était venu tout d'un coup et voilà, c'est assez finalement étonnant. Alors que maintenant, si j'ai plus de mal si je veux avoir des retombées médiatiques, et ça serait génial, mais c'était vraiment au démarrage quoi.
Il faut dire que c'était au bon moment aussi, alors compliqué de réunir des gens à ce moment-là, pour autant ce besoin devait être exacerbé chez beaucoup de personnes. Mais du coup, est-ce que ces Google Forms t'ont permis d'avoir des gens qui avaient besoin d'aide finalement, qui t'ont contacté?
Oui, c'est ça. En gros, après, vu que tous les médias relayaient sur le site Mamie Boom, et là il y avait les 2 Google Forms, donc c'était vraiment au début où j'avais on utilise les moyens du bord pour mettre en place cette chaîne de solidarité. J'avais des bénévoles qui m'ont aidé aussi à faire le lien, mais du coup ça m'a permis de découvrir mon activité, de mettre en relation personnes âgées avec des bénévoles comme aujourd'hui. Donc ils sont pas bénévoles, c'est différent, mais personnes âgées avec des étudiants, et pareil avec le lien de la famille, parce que c'était donc les familles qui nous contactaient en disant souvent pour les courses par exemple, ils nous disaient j'arrive pas à faire livrer ma mère, mon père, parce que c'était saturé, donc ils cherchaient des solutions plus locales.
Moi, je trouve ça incroyable, en tout cas, d'avoir transformé cette situation. C'est vrai que quand tu me l'as dit en préparant, je me suis dit, bon, c'est vrai que lancer sa boîte sur de la mise en relation, quand en fait, on doit, enfin voilà, accompagner des personnes âgées, enfin, c'est vraiment
vulnérable.
Pas possible, quoi, enfin, vulnérable. Et en fait, je trouve que c'est formidable le renversement de situation, quoi, l'énergie et enfin, ça t'a donné vraiment, je trouve, un moteur pour avancer dans ton projet. Ça, je trouve ça incroyable. En tout cas, d'avoir eu l'idée de cette chaîne de solidarité au moment du Covid. On va revenir sur ce projet Mamie Boom, donc plutôt à la partie nous. Tu me disais que ce sont souvent les aidants qui vous contactent en premier et pas forcément les personnes en situation de vulnérabilité. Comment tu l'expliques ?
Oui, c'est les proches, c'est les familles, donc c'est principalement les enfants des personnes âgées. Alors il y a plusieurs cas de figure, soit ils habitent loin, donc ils peuvent pas se rendre aussi souvent qu'ils le souhaiteraient, ou alors des aidants qui s'en occupent régulièrement, mais qui ont besoin de souffler, d'avoir un peu de répit, donc ils font appel à nous. Et c'est marrant parce que au départ, on pouvait penser que ça allait être des familles qui voulaient un peu déléguer parce que elles ont pas trop envie, pas trop le temps de s'occuper de leurs parents, alors que pas du tout, c'est vraiment l'inverse, c'est des familles qui font déjà beaucoup pour leurs proches et qui ont envie de faire encore plus parce qu'elles se disent même si moi j'y vais du mieux que je peux, bah les journées restent longues pour mon papa, ma maman qui vit seule, donc j'aimerais bien qu'ils puissent être stimulés, avoir de la compagnie, sortir, jouer à des jeux de société, faire des courses, discuter et ramener de la vie dans le quotidien de ses parents. Et c'est aussi un relais de confiance quand on habite loin, de savoir qu'un étudiant va rendre visite régulièrement à ses parents.
Je me posais la question là le ratio homme-femme des personnes accompagnées, c'est de quel ordre ?
Je dirais 60% de femmes et 40% d'hommes. Parce que donc c'est vrai que c'est plus souvent des femmes puisque l'espérance de vie est plus longue chez les femmes, donc elles se retrouvent souvent seules chez elles suite au décès du mari, et c'est là que elles commencent à ressentir de la solitude et que les familles essayent de trouver des solutions pour rompre un peu cette solitude et égayer leur quotidien.
Et alors, la présence d'un étudiant, en quoi elle change la donne pour les personnes âgées ? Je te demande ça parce que je me dis que c'est peut-être moins stigmatisant pour une personne en situation de vulnérabilité ou une personne âgée d'être aidée par un étudiant que par un auxiliaire de vie. C'est quoi ton avis là-dessus ?
Oui, c'est ça. C'est que c'est une aide qui est ni professionnelle ni médicale, donc plus facile à accepter pour la personne âgée. Pourquoi ? Parce que c'est une relation qui est basée sur l'échange. Donc les deux générations vont s'apporter mutuellement et donc la personne âgée, elle se sent revalorisée. Elle dit « Ah, mais je peux transmettre mon savoir, mon expérience à un jeune et je peux être son confident, sa confidente. Je lui apporte des choses, il m'apporte des choses aussi. Il m'apporte sa jeunesse, il m'apporte une étincelle de vie, il m'apporte une aide quand j'ai besoin d'aller faire mes courses. » Et voilà, c'est vraiment les deux générations s'apportent mutuellement et les étudiants, il faut savoir qu'ils font ça que quelques heures dans la semaine. Ça va être par exemple, en moyenne, 2 visites de 2 heures dans la semaine. Donc, ça crée du lien et c'est un format complémentaire aux auxiliaires de vie parce qu'évidemment, ils sont pas aptes, pas formés pour faire l'aide à la toilette, aide au coucher, lever, etc.
Oui, c'est complémentaire.
Tout à fait.
Et on voit bien du coup ce lien intergénérationnel. Est-ce que ce que chacun peut s'apporter ? Et comment vous faites le matching entre les binômes sur Mamie Boom, sur votre site, comment ça se passe ?
Oui, alors déjà en amont, il y a notre chargée de relations clients, Aurélie, qui interroge les familles sur les besoins de la personne âgée, ses centres d'intérêt, les envies particulières d'activité, de sortie, etc. Et on a Marie, notre chargée de recrutement, qui va faire le matching, donc les étudiants candidates en fonction des missions disponibles près de chez eux, parce qu'on est partout en France. Et en fonction des candidatures, elle fait passer des entretiens en visio, et on regarde des critères comme, bien sûr, la localisation, les disponibilités et les centres d'intérêt pour faire matcher les profils, sachant qu'une fois que le profil est sélectionné, donc on envoie cette perle rare à la famille, et là, il y a une rencontre informelle d'1 heure. D'accord. Donc l'étudiant n'est pas rémunéré, mais il se rend au domicile de la personne âgée, souvent le proche est présent, c'est rassurant, et ils font connaissance, et voilà, pour s'assurer que le binôme, que le courant passe bien et que c'est un match.
Tu parles d'un échange monétaire, du coup.
Oui.
J'avais pas forcément compris ça, mais c'est vrai que tu parles d'entrepreneuriat depuis tout à l'heure. Donc, c'est plus des bénévoles,
voilà,
comme ça a pu l'être pendant le Covid, mais c'est un petit boulot qui voilà, ils passent 4 heures, disons, par semaine avec cette personne âgée. Et donc, ils vont toujours revoir la même personne âgée. C'est leur vieux de prédilection, quoi. C'est celui qu'ils accompagnent. C'est super.
Oui, c'est ça. C'est un job étudiant qui a du sens.
D'accord.
Et qui est flexible, donc ça permet aussi aux étudiants, voilà, d'arrondir leur fin de mois avec un job qui est pas contraignant au niveau des horaires, et c'est surtout, voilà, une expérience enrichissante d'apprendre aux côtés des personnes âgées, et ils sont rémunérés 10,93 € de l'heure net.
Et alors, suite à cette visite, tu m'as montré, d'ailleurs, c'est très sympa, donc là on est à la radio, on pourra pas montrer à nos auditeurs, mais l'étudiant remplit un suivi de visite, et il y a un petit des photos qui sont envoyées à la famille et qui permettent aussi de maintenir le lien. Je trouve que c'est une bonne idée. Quel retour vous en avez, comment ça fonctionne?
Bah, les familles, vraiment, elles adorent, et je pense que c'est quelque chose d'assez innovant par rapport aux services à la personne traditionnelle. C'est-à-dire que l'étudiant, en effet, après chaque visite, va remplir un suivi avec une photo, ce qu'ils ont fait ensemble. Et souvent, voilà, ils y mettent du cœur à écrire le descriptif de ce qu'ils ont fait. Et surtout, nous, en interne aussi, on voit ces photos. Donc, on les reçoit, en fait, ces suivis de visite, et ça nous met vraiment du baume au cœur, enfin vraiment de voir ces sourires, on se dit, bah, on sait pourquoi on se lève le matin, quel impact on peut avoir, parce que on crée des moments de bonheur entre deux générations différentes, et ça c'est génial. Et les familles, elles nous disent, je me rappelle d'un avis Google assez récent où elle disait, bah, je peux lire la sérénité sur le visage de ma maman, et ça rassure les proches. Et voilà, parce que souvent, nous, on envoie des photos de nous à nos parents, nos grands-parents, mais on en reçoit rarement d'eux. Donc, quand on en a, ça fait plaisir, en fait, de voir voilà, ces binômes. Et une petite anecdote, d'ailleurs, souvent, on a l'impression qu'ils sont de la même famille. C'est assez flagrant. On regarde plein de suivis de visite, on dirait que c'est la petite fille et la grand-mère, le petit-fils et la grand-mère. Enfin, c'est assez marrant.
Oui, mais c'est vrai que ça donne le sourire. Alors, pour le coup, pour l'anecdote, on travaille dans le même espace de coworking, et une fois, je suis passé derrière ton ordinateur et j'ai vu une photo d'un bidon, et je me suis dit, tiens, c'est fun, marrant. Ça, et finalement, ouais, c'est vrai que c'est assez rare. Enfin, je trouve qu'en termes de lien intergénérationnel, c'est vraiment super. Enfin, c'est une très bonne chose d'avoir mis en place ces carnets de visite.
Est-ce qu'il arrive que, même après une première visite où on pense que ça s'est bien passé, finalement le courant passe pas tant que ça, et au bout de quelques visites, ça matche pas, la personne âgée vous fait une remontée comme quoi, finalement, on s'entend pas si bien, ou des choses comme ça?
Oui, c'est rare, mais ça peut arriver. Mmh. Et souvent, c'est quand la personne âgée, au départ, était assez réticente.
Okay.
Parce que y en a qui sont en demande. Hein, c'est elles qui disent à leurs proches, j'aimerais trouver quelqu'un pour me rendre visite, m'accompagner, etc. Mais il y en a aussi qui sont réticentes en disant, voilà, elles refusent une aide extérieure, j'ai besoin de personne, etc. Et quand elles sont un peu comme ça, plus réticentes, parfois, ça peut moins bien fonctionner.
C'est quoi comme sentiment qui domine dans ces cas-là? C'est plutôt une espèce de honte de la personne âgée d'avoir envie de compagnie, tu vois, quelque chose comme ça, tu penses?
C'est plutôt de dire, je suis autonome, j'ai besoin de personne, et pas d'accueillir aussi une personne qu'elle ne connaît pas chez elle. Mais oui, c'est plutôt le côté, je veux pas être stigmatisée comme vieux, comme j'ai besoin d'aide. Non, je me débrouille, et parfois aussi, je veux pas être un poids pour mes proches, donc je veux pas qu'on organise des choses pour moi. Voilà.
Okay. Mais alors, justement, les proches, est-ce que ça leur permet pas d'avoir du temps plus qualitatif avec la personne aidée, accompagnée, plutôt que du temps purement logistique, quoi.
Bah si, complètement, parce que du fait de savoir qu'il y a un étudiant, une personne de confiance qui peut rendre visite chaque semaine à son papa ou sa maman quand on vit loin, par exemple, bah ça enlève une grosse charge mentale. On peut lui demander s'il y a besoin, voilà, remplacer une ampoule, etc. S'il y a besoin, surtout, ils accompagnent aussi aux rendez-vous médicaux, donc ça évite de poser une journée, une demi-journée pour accompagner son parent. Et évidemment, l'objectif, c'est que grâce à ça, après, les proches peuvent profiter de leurs parents sans avoir en gérant moins de logistique, en étant plus rassurés et plus profiter en fait de l'instant présent avec leurs proches.
Oui, ça enlève clairement une petite charge mentale.
Oui, oui.
Et pour les étudiants, c'est quel type de profil qui s'engage avec vous? Ils viennent chercher quoi dans cette expérience? À part évidemment, on comprend bien qu'ils sont rémunérés et que c'est un petit job étudiant, mais c'est quoi les critères de motivation?
Alors souvent, ce qu'ils nous disent, c'est que il y a un peu deux cas de figure. Soit ils sont très proches de leurs grands-parents et donc ça les touche, ils sont sensibles à la solitude, au fait que certaines personnes âgées, ben, se sentent seules et donc eux, ils veulent se rendre utiles. Soit inversement, ils ont très peu connu leurs grands-parents et ils aimeraient pouvoir adopter un papy ou une mamie de cœur, pouvoir échanger avec des personnes de plus âgées qu'ils n'ont pas l'occasion en fait de rencontrer dans leur quotidien. Et aussi un retour que j'ai souvent, c'est que pour eux, c'est une pause dans leur semaine. Ils apprécient énormément ces moments-là. C'est-à-dire que ils ont les cours, ils ont le sport, les copains, etc. Et ben là, pendant ces quelques heures de visite avec la personne âgée, ben ils sont obligés de ralentir pour se mettre au rythme de la personne, et ça leur fait un bien fou de pouvoir discuter tout simplement, avoir une oreille attentive. Comme je le disais souvent, on les appelle les étudiants, c'est les gentils accompagnateurs.
Okay.
Et les personnes âgées, c'est les super boomers. Et donc souvent, c'est leur super boomer ou leur super boomeuse devient leur confidente ou leur confident, d'avoir voilà cette relation un peu privilégiée qui peuvent. Et souvent, même les étudiants, parfois ils font leurs études loin de leur famille, donc ça leur permet de retrouver une petite famille en local, quoi.
Mais du coup, justement, des étudiants, ça trouve un taf, ça finit ses études à un moment. Est-ce qu'il y a des séparations tragiques entre des boomers, boomeuses et des super boomereuses et des gentils accompagnateurs?
Oui, ça c'est ce qu'on se dit dans l'équipe. Je dis à Marie, mais parfois tu fais tellement bien ton travail que le match il est génial, ils s'entendent tellement bien que c'est difficile au moment où en effet, si l'étudiant doit partir en stage, etc. Parce que comme tu le disais tout à l'heure, ce qui est important, c'est la régularité. C'est vraiment la même personne qui rend visite chaque semaine à la même personne âgée. Donc ce lien, voilà, ça permet de créer du lien. Et oui, quand ils partent en stage, c'est triste. Et en même temps, ils gardent un lien derrière. Ils continuent à s'appeler, s'envoyer des messages. Il y a beaucoup de relations aussi. Voilà, ils se font des petits cadeaux pour les Noël, les anniversaires, etc. Et après, charge à nous de retrouver une autre perle rare aussi bien que celle d'avant.
Et alors, tu peux nous partager quelques chiffres pour qu'on mesure un petit peu l'impact de Mamie Boom aujourd'hui, combien de binômes créés depuis le lancement, combien sont actifs actuellement, combien d'heures de visite?
Oui, alors il y a plus de 1200 binômes créés depuis 2020. Actuellement, on en a 150 actifs partout en France. Et pour vous dire, et en termes d'étudiants, il y en a plus de 10 000 qui se sont inscrits depuis le début de l'aventure. Donc, encore ici, on a le même décalage que pendant la chaîne de solidarité, où j'avais eu 3 000 bénévoles et on avait accompagné une centaine de personnes âgées. Là, il y a plus de 10 000 étudiants inscrits. Et en fait, la difficulté, c'est de faire connaître Mamie Boom auprès des familles, parce que c'est un service nouveau, innovant. On pense pas forcément à faire appel à des étudiants parce que c'est cette partie compagnie, comme on disait, promenade, jeux de société, aller faire des courses ensemble. Et j'insiste sur le ensemble, parce qu'on va pas, par exemple, aller faire les courses à la place d'eux, mais avec, pour permettre justement à la personne âgée de rester autonome, de pouvoir aller dans son enseigne préférée, choisir ses produits. Donc voilà, donc toujours avec la personne âgée. Et c'est pour ça que... Voilà.
Et alors, comment tu fais pour donner de la visibilité à ce projet? Justement, vous êtes combien?
On est quatre.
Vous êtes quatre. D'accord. Et vous avez quelqu'un à la communication ou...
Oui, on a une personne à la communication, une relation client et une chargée de recrutement.
Très bien.
Et vous êtes tous au même endroit ?
Et non, on est à Valence et à Marseille.
D'accord.
Voilà, parce que j'ai eu la chance de pouvoir recruter dans le projet mon ami d'enfance qui est à Valence. Et voilà, d'où le double bureau.
Et alors, comment est-ce que vous faites pour être sur toute la France ? C'est quoi les territoires où vous réussissez à vous implanter ? Ville étudiante en priorité ou comment ça se passe ?
Oui, bah beaucoup en Île-de-France. Parce que je viens d'arriver sur cette belle ville de Marseille et avant j'étais à Paris et donc on a beaucoup de binômes en Île-de-France. Étonnamment, dans les grandes villes, c'est là où la solitude peut se ressentir le plus parce qu'on voit des gens mais sans vraiment connecter avec. Et alors qu'en milieu plus rural, souvent la famille est plus proche, donc ou alors il y a une solidarité entre voisins, etc. Mais beaucoup, oui, les grandes villes étudiantes, ouais.
Et alors à Marseille spécifiquement, il commence un petit peu à y avoir des binômes, t'arrives à développer un petit peu l'activité sur le territoire ou...
Oui, on a quelques binômes en effet sur Marseille. Donc là, l'idée, c'est d'aller encore plus loin et de pouvoir en créer encore plus et idéalement, comme ça, pouvoir peut-être faire des événements après pour les réunir et les rencontrer sur le territoire marseillais.
Eh ben, écoute, très bien. On va passer à la pause musicale. Et qu'est-ce que tu as choisi comme musique pour cette pause?
Alors, j'ai choisi Mamie Blue.
Mamie Blue. Eh ben, on écoute tout de suite Mamie Blue. Et je ne sais pas de qui est Mamie Blue. D'ailleurs, je ne l'ai pas noté, Félix, de qui est Mamie Blue.
J'ai Nicoletta.
Ouais, ah, c'est Nicoletta. Ça. Oui, tout à fait. Eh ben, on écoute Mamie Blue de Nicoletta.
J'ai franchi la frontière, le vent soufflait plus fort qu'hier. Quand j'étais près de toi, ma mère, on m'appelait. Je te reviens et j'ai refait tout le chemin qui m'avait entraîné si loin, oh si loin. Tu n'es plus là pour me sourire, me réchauffer, me recueillir, et je n'ai plus qu'à repartir. Le chat et les chiens sont très vieux et ils viennent me dire adieu, adieu. Je ne reviendrai plus jamais dans ce village que j'aimais, où tu reposes à tout jamais, désormais. Oh
Et on est de retour sur Radio Galère 88.4 FM pour l'émission de La Forêt des Possibles. On a écouté Mamie Blue de Nicoletta et c'est évidemment très en lien avec notre sujet puisqu'aujourd'hui on parle du bien vieillir avec Céline Leblanc de Mamie Boom. Alors, Céline, j'avais envie de te poser une question avant d'évoluer sur le bien vieillir et la place de nos aînés dans la société. Je me demandais comment ça se passe. On parle de personnes âgées, parfois en forme, parfois vulnérables, parfois malades, j'imagine. Comment ça se passe? Comment vous faites vous pour évaluer le moment en fait où vous avez votre place et le moment où en fait le relais doit être pris peut-être par des soignants?
Déjà, c'est en amont, lors de l'évaluation des besoins avec la responsable relation client. Donc, on évoque tous ces points-là avec la famille, le proche. Et parfois, en effet, au cours des visites, au bout d'un moment, les visites s'arrêtent parce qu'ils nous disent, là, on a besoin d'une aide plus professionnelle et Mamie Boom ne suffit plus. Mais on accompagne quand même, par exemple, des personnes qui ont Alzheimer. Et c'est souvent parce que dans un besoin de stimulation, ça fait vraiment du bien à la personne âgée de pouvoir faire des exercices de mémoire, d'échanger, discuter, enfin d'être stimulée. Et surtout, ça offre du répit à l'aidant, parce que j'ai des exemples de couples de personnes âgées dont l'un des deux a la maladie d'Alzheimer. Et donc, il n'ose pas sortir de chez lui parce qu'il a pas envie de laisser son conjoint seul. Donc ça leur permet vraiment de se dire bon, il y a une personne de confiance auprès de mon conjoint, donc je peux sortir, je peux avoir du moment pour moi, et en plus mon proche est stimulé.
Et alors, est-ce que tu travailles à mieux faire connaître Mamie Boom aux professionnels de santé pour que ce soit finalement intégré aussi peut-être dans un parcours de soins à terme?
C'est vrai que c'est l'objectif, parce que on a besoin de prescripteurs pour faire connaître Mamie Boom, et en effet des associations comme France Alzheimer ou d'autres associations pour aider les aidants, et des professionnels de santé, bien sûr, des assistantes sociales à l'hôpital, ça peut être pour une sortie d'hospitalisation, pour plein de on a des ostéopathes, des orthophonistes qui aussi parfois nous renvoient des patients à eux. Et en effet, tout l'objectif de Mamie Boom, pour grandir, c'est d'essayer de se faire connaître grâce à ses prescripteurs.
Et alors, je voulais te demander, ça me semble être une bonne solution, Mamie Boom, pour éviter l'entrée en EHPAD. Qu'est-ce que t'en penses?
Alors oui, disons que aujourd'hui on est dans un virage domiciliaire, c'est-à-dire que les Français veulent rester chez eux le plus longtemps possible. Mais pour cela, il faut pouvoir être entouré, puisqu'on le sait, le lien social c'est vital. Et donc en face, on a aussi une pénurie d'auxiliaires de vie. Donc il faut trouver une autre solution. Et moi, la ressource que j'apporte, c'est des étudiants pour cette partie compagnie lien social, qui est donc complémentaire aux auxiliaires de vie et qui permet de garantir que la personne elle est entourée, et donc ça lui permet de rester chez elle le plus longtemps possible. Parce que Mamie Boom, c'est à la fois rompre la solitude, mais aussi retarder la perte d'autonomie du fait d'être stimulée chaque semaine, de pouvoir sortir grâce au bras rassurant d'un étudiant, échanger, donc la stimulation cognitive, etc. Il y a un vrai impact positif de ces visites sur la santé des personnes âgées. Donc tout ça favorise en effet le maintien à domicile quand il est souhaité. Mais on intervient aussi en EHPAD, c'est-à-dire que là, les familles, c'est dans une démarche de on voudrait que notre proche ait des visites plus régulières, parce que nous, on habite loin, pour qu'il puisse sortir hors de l'EHPAD, parce que pour aller, il adorait se promener avant, donc là, il a besoin de quelqu'un pour l'accompagner. Donc il y a un vrai enjeu en EHPAD aussi de pouvoir... ça ramène, souvent ils nous disent, ça vous ramène de la vie auprès de mon proche.
Oui, ça rallume un petit peu l'étincelle et ça permet, c'est un modèle pour moi qui est en tout cas plus durable et qui participe fortement au bien vieillir, quoi. Ce qui n'est pas une mince affaire, je trouve, étant donné tous les scandales qu'on entend dans notre société sur la vieillesse. Parfois, moi, ça m'hérisse le poil, quoi. Je me dis, potentiellement on y passera toutes et tous, enfin avec un peu de chance. Et, ouais. Et quand j'entends des scandales comme ceux qu'il y a eu récemment, je me dis qu'on a quand même un énorme travail à faire sur le respect de nos aînés et sur sur le bien vieillir, quoi.
Et puis au-delà de ça, on a notre société a eu tendance à oublier en effet ce qu'on pouvait encore, ce qui nous apporte, ce qu'ils peuvent nous transmettre, et en se déconnectant complètement de cette population, en la réinfantilisant et l'ostracisant, on se coupe et on se prive de leur présence et de leur sagesse et de leurs conseils, parce que au final ils savent parce qu'ils ont vécu tout ça, tout ce qu'on traverse.
Ça, c'est la transmission intergénérationnelle se perd, et nous, grâce à Mamie Boom, de reconnecter ces deux générations, on favorise, on encourage de reconnecter les générations.
Et alors, j'ai envie de te demander, tu parlais de tout à l'heure du coup de la déconnexion grandissante entre ces générations.
Ouais.
C'est quoi ton avis là-dessus ? Est-ce que tu penses qu'il faut repenser nos modèles familiaux ? Moi, je me demande un petit peu comment on en est arrivé là en fait. Tu parlais d'infantilisation, mais c'est vrai. Moi, j'ai une image parfois où je me dis en fait, c'est presque triste quoi. Il y a le passage à la retraite pour certaines personnes. Enfin, ça va très vite et puis. Certaines personnes sont oubliées, quoi. Enfin, ça peut être très triste. Est-ce qu'il faudrait repenser un peu tout ça ? Je sais qu'avant, peut-être, on prenait plus soin de nos aînés, on avait peut-être plus le temps, je sais pas. Mais...
C'est vrai qu'on vit de plus en plus loin de nos parents. Donc il y a moins de liens. Et en fait, le passage à la retraite, là, il y a un peu un début de manque d'utilité. Les personnes âgées souffrent de ça, de se dire je ne sers à plus rien. Et en fait, tout l'enjeu est de pouvoir leur redonner une place dans la société, de leur redonner une utilité sociale. Alors même si en apparence elles ont besoin d'aide, mais en fait non, grâce à Mamie Boom, elles transmettent leur savoir, leur expérience, ou en tout cas on cherche à vraiment créer ce genre de relation pour qu'elles se disent moi j'ai apporté ça à un étudiant, en plus de l'aider financièrement finalement, parce que vu que c'est un job étudiant rémunéré, ça elles permettent aussi d'aider l'étudiant à démarrer dans la vie active. Et pour les étudiants, c'est une première expérience professionnelle, ils peuvent valoriser ses compétences, voire peut-être créer des vocations aussi.
Ouais, non, tout à fait, ça me fait dire, enfin en tout cas, je me dis oui, quelle richesse, enfin en tout cas des personnes qui ont vécu longtemps, en tout cas tout ce qu'elles peuvent nous apprendre, et ça me fait penser, on va passer après à une œuvre qui t'inspire, et là d'un coup je me souviens du livre, je crois que c'est Edgar Morin. C'est ça, Leçon d'un siècle de vie. Je ne sais pas si vous connaissez ce livre, mais du coup, il raconte. C'est formidable de richesse tout ce qui s'est passé. Il a 100 ans, cet homme, c'est un écrivain, et il raconte tout ce qu'il en retire. Enfin, c'est un peu ses mémoires. Bon, il est encore vivant, mais du coup, tout ce qu'il en retire, et c'est incroyable à lire comme livre, parce que je me dis effectivement quelle expérience, quoi. Enfin, avoir vécu 100 ans, c'est pas donné à tout le monde déjà.
Oui, et même dans ce parcours de vie, je me rappelle d'un suivi de visite où elles avaient parlé de la contraception avant la pilule, voilà comment elles faisaient.
Ah oui.
Donc c'est vrai que c'est hyper enrichissant de se dire qu'on peut échanger sur ces thématiques-là avec des personnes qui ont vécu avant la pilule, etc.
Bien sûr, oui, c'est des parties d'histoire qu'on peut se rappeler et qu'on peut voir incarner en face de nous, des histoires absolument incroyables, des réalités qu'on n'imaginerait même pas et qui sont encore encore en vie, quoi. Donc il faut en profiter. Merci de cette initiative qui va vraiment dans un sens souhaitable et avec un petit rattrapage à ce niveau-là. Il y a vraiment beaucoup beaucoup de travail sur ce sujet, ouais, c'est clair.
Et alors Céline, est-ce que toi, il y a une œuvre qui t'inspire ou qui t'a inspiré pour Mamie Boom ?
Oui, je pense aux talents d'Alphonse, justement, qui m'ont inspiré, puisque eux, le principe était de valoriser les seniors. C'était eux qui transmettaient leur savoir, puisqu'ils donnaient des cours, en fait. Donc, on pouvait prendre des cours de peinture avec une personne âgée, ou des cours de couture, des cours de photographie. Il y avait même une partie, c'était intéressant, différent, mais de garde d'enfants. Et c'est vrai que, c'était comment redonner une utilité aux personnes âgées en disant c'est elles qui ont beaucoup à transmettre, leurs compétences, mais aussi leur temps.
Les talents d'Alphonse.
Oui, qui m'a inspirée au début de Mamie Boom, et c'est pour ça d'ailleurs qu'on a vraiment mis au centre du matching le côté centre d'intérêt. Ouais. Je me suis inspirée de ça pour me dire, voilà, si on a déjà eu des cas, c'était génial. C'était un ancien professeur d'histoire géo avec un étudiant qui était en licence histoire géo. Enfin voilà, ils s'apprennent.
Mais c'est génial.
Ah, ouais. Il y a des matchs parfaits, vraiment.
C'est marrant, ça me renvoie à ma grand-mère. En fait, ma grand-mère était passionnée d'histoire sans être prof. Et petit, moi, j'étais allergique un petit peu. Et en fait, avant chaque interro d'histoire, je lui demandais de me raconter le cours, quoi. Et elle me disait, ah ouais, machin. Et elle passait 2-3 heures au téléphone avec moi ou si j'étais chez elle en vacances à me raconter tout ça. Et ouais, c'était ma prof particulière d'histoire. Donc.
Je suis sûre qu'elle a beaucoup apprécié ces moments-là aussi.
Certain.
C'est un bon moyen de réviser ses partiels, ça. On n'y pense pas assez. Est-ce que, Céline, Mamie Boom, c'est aussi, on l'a dit, un levier pour changer de regard sur le vieillissement? Ma question, pardon, c'est quel message tu aimerais adresser aux jeunes, à la jeune génération?
Alors, je pourrais leur dire que la technologie, c'est génial pour accumuler beaucoup de savoir, ça va vite, etc. Mais le côté humain de témoignage des personnes âgées est très complémentaire et très enrichissant. Donc, s'ils peuvent avoir l'opportunité de soit interroger leurs grands-parents, soit être gentils accompagnateurs chez Mamie Boom, ils vont vraiment s'enrichir et d'échanger leur vision de la vie, sur plein de thématiques. C'est vraiment c'est rare finalement, voilà, de pouvoir rencontrer une autre génération et d'aborder ces sujets profonds, de les confronter sur plein de thématiques et de s'enrichir de cet échange.
Et c'est vrai que moi me vient une rencontre que j'ai fait avec la grand-mère d'un ami à moi, et je me suis rendu compte à quel point déjà je trouvais ça fascinant de pouvoir échanger avec cette personne, et les questions me venaient plus facilement. En fait, le contact était plus facile qu'avec ma grand-mère à moi. Peut-être parce qu'il y a tout ce passif familial, tous ces moments de tension ou de tendresse, des moments qu'on a partagés. Et là, c'était un peu comme se faire une copine, quoi, discuter avec quelqu'un qu'on rencontre pour la première fois et en même temps qui a vécu tout un tas de trucs différents, et qui, cette personne à ce moment-là, je voyais qu'elle était un peu frustrée parce qu'elle était enfermée dans son corps à la table. Du coup, elle grignotait des trucs, mais elle aurait aimé aller danser avec d'autres, ou aller se gambader avec le chien ou les canards. En plus, on était dans une super maison de campagne, et c'était vraiment c'était vraiment fascinant. Et du coup, je me dis que en fait, peut-être c'est pas à la place de voir ton grand-parent, c'est peut-être une autre relation en effet qui peut naître, et une autre manière de découvrir cette génération là sans la famille,
le lien familial.
Oui, parce que souvent on pense jamais à demander à nos grands-parents alors comment c'était quand t'étais plus jeune, et on s'en mord les doigts le jour où ils partent, malheureusement. Mais
parfois c'est un peu caché le comment c'était quand t'étais jeune, c'est pas évident. C'est vrai que le lien familial n'est pas forcément évident finalement, alors que moi aussi j'ai connu que ma grand-mère, j'ai pas connu mes autres grands-parents, et finalement elle m'a très peu raconté de choses. C'était pas tabou, mais c'était de la pudeur, on va dire. Par contre, j'ai eu des expériences. Par exemple, une fois, j'ai fait une course en stop où on a été pris en stop par un couple de retraités, et on a vécu des moments formidables, quoi. Enfin, on a passé une après-midi, on s'est éclaté. C'est limite, je retrouve aussi le côté grands enfants de ces personnes parfois.
Et oui, nous, les étudiants, ils disent que souvent, ils ont adopté un papy ou une mamie de cœur.
Oui, puis c'est des histoires qui sont super différentes en fonction des familles aussi. Moi, je vois entre mes deux grands-mères, déjà, les histoires sont vraiment radicalement différentes. J'imagine que si j'avais été un des étudiants qui aide une mamie, j'aurais trouvé une histoire encore complètement radicalement autre, quoi. Parce que sur le temps d'une vie, t'as le temps de développer une histoire qui n'a rien à voir, quoi.
Complètement. Ça me fait penser aussi aux colocations intergénérationnelles.
Ah oui, tout à fait.
Oui.
J'ai une amie qui avait fait ça.
Le concept est intéressant. Et oui, c'est génial parce que les étudiants, ça leur permet de payer un loyer moins cher, et les personnes âgées d'avoir une présence quotidienne, quoi.
Ouais, c'est un peu le même système d'apport, quoi. mutuelle.
C'est ça. Et tout à l'heure, quand tu demandais un peu s'il fallait repenser les villes, etc., il y a d'autres initiatives. Ça peut être des résidences intergénérationnelles. C'est intéressant de, voilà, mélanger, en fait, des étudiants avec des personnes âgées. Et comme ça, chacun peut se rendre des services mutuels. Là, j'y pense comme ça, en parlant. Mais la personne âgée, elle est souvent chez elle. Donc, elle peut récupérer le colis de l'étudiant.
Ouais, ouais,
enfin, c'est finalement dans les deux sens.
C'est un sujet, ouais, très intéressant et des modèles qui se développent de plus en plus en France. Les habitats partagés, les habitats participatifs, où il y a deux couples, trois personnes âgées qui se connaissaient pas forcément, deux étudiants et une famille avec trois enfants et tout le monde, en fait, voilà, il y a une diversité incroyable, il y a des besoins communs forcément, il y a des choses qui peuvent être mutualisées, donc on parle aussi d'une forme d'économie. On recevait quelqu'un qui nous parlait justement de cette manière de l'éco-frugalité. Et c'est vrai que c'est une manière de juste mettre en commun et partager les ressources qu'on a, ne serait-ce que cette boîte à outils que tout le monde doit avoir chez soi, mais qu'on utilise quand même très rarement. En fait, on pourrait la partager avec tout notre immeuble.
Clairement, parfois j'y pense, je me dis c'est dingue, quoi. Le lien social est à recréer à plein d'endroits, franchement.
Et l'habitat est une manière vraiment, vraiment centrale, en fait, de le repenser. Et ouais, j'espère voir fleurir aussi des habitats intergénérationnels un peu partout.
C'est pour ça qu'il y a aussi des crèches qui s'implantent dans les EHPAD pour renforcer ce côté intergénérationnel et ouverture pour rester ouvert sur le monde extérieur quand on est en EHPAD. Donc voilà, moi j'adore dès qu'on mélange les générations.
Eh bien, on va passer à notre question surprise, qui nous pose une question piège. Hein. Mais on l'a fait à tous nos invités.
Très bien.
Va se projeter un petit peu. On va se projeter en... Je vais nous projeter en quoi ? On est en 2025.
50 ?
Ouais. Oula !
Non,
allez,
non
on
beaucoup
va...
quand même.
On va fermer les yeux et on va se projeter en 2040.
Ok.
En 2040, Céline, tu es avec moi et nous avançons à Marseille. Tous les deux, nous marchons sur la Canebière. Et là, nous respirons, nous sentons l'air sur notre peau et nous observons. Nous observons Marseille en 2040. Et là, tu te rends compte qu'un de tes rêves pour la société et pour cette ville de Marseille, c'est réalisé. Et tu me le partages. Tu peux ouvrir les yeux et me dire quel est ce rêve.
Et ben là, on était sur la Canebière et on a croisé plein de binômes intergénérationnels. Donc, c'est pas le cas aujourd'hui, le côté t-shirt, mais là, ils avaient des t-shirts Mamie Boom. Et
génial.
Comme ça, on les a bien identifiés. Et en fait, c'est hyper courant maintenant de faire ce job étudiant. Avant, on pensait Franprix, McDo, etc. Mais là, on pense direct Mamie Boom pour les étudiants parce qu'on se dit, mais attends, c'est génial. Je suis rémunérée en même temps de vivre un super moment. Je vais me promener avec une personne âgée. On discute. C'est top. Et voilà, c'est maintenant le job étudiant numéro 1, donc il y a plein de binômes intergénérationnels dans la rue.
Ça doit être la même fourchette de rémunération en plus, travailler pour...
Bah même plus, parce que c'est plus que le SMIC. Donc,
c'est génial, mais oui.
C'est clair. Quand tu dis, oui, en 2040, on ne pensera plus à aller travailler direct chez McDo, mais on pensera...
On n'ira plus chez KFC, mince alors.
Non, on n'ira plus chez KFC pour boucler la boucle.
Excellent.
Et avant de se quitter, Céline, est-ce que tu veux nous partager quels sont tes besoins aujourd'hui ou pour le projet, comment on peut t'aider ou tes actualités?
Oui, bah alors les besoins, c'est vraiment d'arriver à faire connaître Mamie Boom autour de nous, donc notamment aux proches, aux familles qui ont envie de prendre soin de leurs proches, qui peuvent ressentir de la solitude ou pour les stimuler, etc. Et sachant que l'été, c'est une période particulière parce que les familles partent en vacances, donc les personnes âgées ressentent plus de solitude à ce moment-là, donc souvent font appel à nous. Encore plus, enfin, c'est renforcé pendant l'été. Et on peut même accompagner les personnes âgées sur leur lieu de vacances. Donc, c'est génial. Là, l'étudiant peut se retrouver à Cannes pendant une semaine, dans la maison familiale, ou voilà, ça peut. C'est une option. Et les étudiants qui nous écoutent, si vous voulez un job d'été qui a du sens, ben, n'hésitez pas à vous inscrire. et on a un partenariat, donc c'est intéressant pour les familles, avec AG2R La Mondiale, donc la complémentaire retraite, et ils financent les 10 premières heures de visite pour leurs allocataires.
10 premières heures de visite pour les allocataires.
D'AG2R La Mondiale.
Top. Et donc, il faut se tourner sur... il faut aller sur le site de Mamie Boom.
C'est ça, mamie-boom.com ou le numéro de téléphone.
Mamie-boom.com. Eh bien, cette émission touche à sa fin, les amis. Et Céline, merci beaucoup à toi d'être venue dans cette émission partager à ce magnifique projet intergénérationnel que tu
encore
mènes.
Bravo.
Merci. Je te félicite. C'était passionnant. Merci, Elissa, pour tes questions toujours aussi pertinentes. Félix également. Je trouve que c'était une belle conversation entre nous tous. Et on se retrouve la semaine prochaine sur Radio Galère 88.4 FM pour la forêt des possible.
Bonne soirée à tous, merci.
À très vite.